Bonjour. Elio ouvre le débat une nouvelle fois. On va se demander aujourd'hui si, après la promulgation d'une nouvelle loi climat-résilience, c'était le 22 août dernier, beaucoup étaient en vacances parmi nos compatriotes, et bien pourtant une loi très engageante a été votée par le Parlement. On va se demander si dans l'univers des copropriétés, on va aisément concilier les fins de mois des copropriétaires avec l'évitement de la fin du monde, puisque aussi bien il s'agit là de protéger la planète. Pour mener ce débat, pour répondre à l'ensemble des questions qui se posent, je voudrais accueillir quatre experts, quatre acteurs à des titres différents et les remercier beaucoup. Je fais remarquer d'ailleurs tout de suite que nous avons atteint la parité dans ce débat. Ce n'est pas si fréquent. On y a réussi grâce aux organisateurs. Je salue d'abord Danielle Dubras, qui est la présidente de l'UNIS, syndicat majeur qui rassemble en particulier les syndics de copropriété. Bonjour Danielle.
Bonjour tout le monde.
Je salue à son côté Tanguy Dupont. Il est le directeur de l'habitat collectif d'Elio. Bonjour Tanguy.
Bonjour Henri.
Je salue de l'autre côté de cette salle Estelle Baron. Elle est la directrice des projets de Solia, une grande spécialiste de la copropriété. Et juste à côté d'elle, bonjour Estelle déjà.
Bonjour.
Je salue enfin José de Jean Matteo. Il est un acteur majeur, il représente une enseigne majeure de la copropriété, Procivis, dont l'un des métiers, ce n'est pas le seul, est la gestion de copropriété, le métier de syndic, sous l'enseigne IMO de France. Bonjour José.
Bonjour Henri, bonjour tout le monde.
Alors, quelques mots pour camper le décor. Il faut remonter à 2009-2010, un pays, le nôtre, la France, qui se veut exemplaire en matière de protection de l'environnement, de maîtrise des dépenses d'énergie. Loi Grenelle 1, Grenelle 2, une inspiration qui était celle à l'époque d'ailleurs du président Chirac. Et puis une séquence de 15 ans balisée par un certain nombre de grands moments législatifs ou de débats non seulement nationaux mais mondiaux. C'est la COP21, c'est les engagements de 2015 pour le climat, c'est déjà une loi en 2015 de transition énergétique. Et puis, plus récemment, je le disais en annonce de ce débat, une loi climat-résilience du 22 août 2021 qui, très clairement, cible deux grands univers, celui de la gestion locative et celui de la copropriété. Les deux, on va y revenir, étant en interconnexion. On rappellera que dans nos villes, celles qui nous accueillent aujourd'hui, par exemple, à la ville capitale, mais c'est le cas de toutes les grandes villes, 60% des logements sont la propriété d'investisseurs, c'est-à-dire sont occupés par des locataires. Donc deux univers qui sont évidemment visés par cette loi dont on va beaucoup parler. On rappellera que l'univers du logement et l'univers de l'immobilier en général sont coupables, bien malgré eux, des émissions de gaz à effet de serre. 25% pour l'ensemble des bâtiments et de l'ordre de 15% pour les seuls logements, nos copropriétés résidentielles. Dans cette loi, des obligations pour le parc locatif avec un calendrier, je le rappelle, non pas à nos experts, mais peut-être à ceux qui sont moins familiers de ce texte, un calendrier qui va de 2022 pour les logements les moins vertueux, qu'il va falloir rénover sans quoi on ne pourra pas les louer, jusqu'à 2034, et l'objectif de restaurer la vertu énergétique de l'essentiel du parc. C'est plus de 20 millions de logements qui sont visés par cet effort. Pour les copropriétés, un autre choix a été fait par le législateur, ce n'est pas l'obligation, sous peine, comme pour les logements locatifs, d'être sanctionné, mais c'est la forte incitation. Avec des outils mis à disposition, outils diagnostiques, outils de programmation des travaux, outils aussi pour favoriser l'épargne des copropriétaires. Voilà, donc deux choix de méthode faits par le législateur, mais en tout cas un texte extrêmement impliquant pour les copropriétés. Le rouge émis, et pas seulement celui de ma cravate, c'est de ça qu'on va parler. Alors, on va, au cours de ce débat, on est ensemble pour presque une heure et demie, vous verrez que ce n'est pas trop pour l'ensemble des questions à examiner. On va parler de droit, on va parler d'argent, de financement, bien sûr, on va parler de pratiques professionnelles, celle des syndics de copropriété. On va prendre le pouls de l'opinion, c'est-à-dire qu'on est allé dans la rue, on a fait des micro-trottoirs pour faire réagir, alors ça ne vaut pas un sondage, et on a aussi d'ailleurs des sondages pour éclairer notre réflexion. J'envoie tout de suite le premier micro-trottoir, on va faire s'exprimer un propriétaire bailleur qui réagit à cette future interdiction de louer si on n'engage pas les travaux nécessaires. On y va.
Que pensez-vous de l'interdiction de location des passoires énergétiques ?
Eh bien, j'en étais informée par l'agence qui gérait effectivement la location de l'appartement. Et c'est bien pour ça que j'ai pris la décision effectivement de le mettre en vente. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a trop de contraintes, sans aucune information autour. Donc voilà, pour moi, c'est le sujet devient de plus en plus complexe, sans information. Donc voilà, moi j'aime les choses simples, claires, on m'informe, je prends une décision. Aujourd'hui, je n'ai pas d'information, c'est compliqué, je vends.
Alors, je disais, le rouge émis, l'illustration est parfaite. On a là quelqu'un qui, propriétaire bailleur, copropriétaire bailleur dans l'un de nos immeubles collectifs, lisant ses nouvelles obligations légales, préfère se retirer, sortir du jeu. Voilà. Et qui est une femme qui est prête à vendre ce logement locatif, à sortir de la copropriété dans laquelle elle avait investi. Pourquoi aujourd'hui ce retard de la copropriété privée et est-ce qu'on va arriver à le combler ? Est-ce que cette priorité donnée par l'État est réaliste aujourd'hui ? Est-ce que le calendrier qui est installé est réaliste ? Daniel Dubrac, au nom des syndics de copropriété, José pourra s'exprimer aussi tout au long du débat à ce même titre, est-ce que ce qu'on appellera l'industrie immobilière, l'ensemble des acteurs, ce sont les syndics, mais ça va être aussi les entreprises, hein, toute la chaîne des entreprises en bâtiment qu'il va falloir solliciter. Est-ce que l'appareil de production, l'appareil de service est prêt ? Est-ce que ça va pouvoir se faire dans les délais impartis ? On a entendu beaucoup de réserves hein, pendant la construction de la loi. Vous avez mis des réserves, la loi est là aujourd'hui. Est-ce que vous vivez, au nom de vos consoeurs et de vos confrères, cette loi comme une opportunité de démontrer votre rôle, d'être mieux reconnu ? Est-ce que vous vivez ça comme une contrainte irréalisable ? Est-ce que vous craignez pas même d'être dans le syndrome du messager ? C'est-à-dire que vous allez, auprès des copropriétaires, déjà apporter l'information précise sur les contraintes, et deuxièmement, vous allez être le bras armé pour les faire décider. Est-ce que votre image, à l'inverse d'être restaurée ou valorisée, ne peut pas en pâtir ?
D'abord, nos métiers sont des métiers qui vont informer et qui vont conseiller pour que la décision de rénover, puisqu'on est en train de parler de ça, soit prise au bon moment. Et donc, pour prendre une décision, il faut pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on la prend, comment est-ce qu'on va la financer, comment est-ce qu'on va la planifier. La loi climat et résilience, elle est là. On a beaucoup lutté sur le calendrier 1er janvier 2023 et nous inquiète évidemment, puisque ça nous paraît irréaliste, mais on a informé. Et donc comment faire pour que cette contrainte soit considérée comme quelque chose qui va être faisable, puisque c'est quand même une contrainte, vous l'avez expliqué, il y a des grands enjeux, les enjeux de la neutralité carbone, les enjeux du dérèglement climatique, il y a des objectifs de développement durable qui sont édictés par l'ONU, la lutte contre l'inégalité sur le climat, on a quand même des problèmes au niveau du climat, de la consommation d'énergie. L'énergie coûte de plus en plus cher, on l'a vu, on l'a entendu récemment. Et puis aussi de la préservation de la planète. Une fois qu'on a dit ça, il va bien falloir faire des diagnostics, il va bien falloir faire comprendre que cette contrainte va être une opportunité. Et donc c'est vrai que informer, sensibiliser, nous, au niveau de notre syndicat professionnel, on a des promoteurs rénovateurs, on a des gestionnaires, on a des transactionnaires, on a des syndics de copropriété, donc toute la chaîne est impactée. Puisqu'on a l'histoire du diagnostic de performance énergétique, déjà dire à chacun des propriétaires qu'ils aient une maison individuelle, un logement individuel ou un logement dans un habitat collectif, déjà calculer son étiquette pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est, avec toutes les discussions qu'il y a sur le DPE actuellement, mais au moins savoir où il en est. Après, passer par un professionnel, cette dame disait quand même qu'elle était passée par un professionnel, pour savoir qu'est-ce qu'elle va avoir comme aide, une aide individuelle, une aide collective. C'est pour ça d'ailleurs que le partenariat avec Elio est extrêmement intéressant, parce qu'on a des gens qui connaissent tous les dispositifs. Alors évidemment, la réglementation change du jour au lendemain. On est très alerte sur les lois de finances, parce que des aides qui sont prévues à un instant donné
On va parler des aides très précisément tout à l'heure.
Donc voilà, c'est cette opportunité, c'est une contrainte, comment faire passer le message, parce que c'est une contrainte, c'est une obligation de faire des travaux, de diminuer les gaz à effet de serre, de faire des économies d'énergie, et donc on doit être dans un ensemble collectif sur ce sujet.
Une question, je mets les pieds dans le plat, Daniel. Dans votre profession, il n'y a pas de climato-sceptique, il n'y a pas, j'entends des choses en ville, comme on dit, il n'y a pas certains de vos confrères qui disent, allez, on va attendre un prochain président de la République ou une prochaine présidente, tout ça, ça va être remis en question parce que c'est pas réaliste. Il y a une autre option qui est de ne pas faire. J'entends pas ça dans votre propos, j'entends l'inverse. En tout cas, vous dites le syndicat majoritairement, il est dans le mouvement.
On n'a pas le choix. On s'informe et on se forme, mais on voit bien que l'énergie coûte de plus en plus cher. On voit bien qu'il faut du confort aussi aux gens. On n'est pas que dans des logements insalubres ou des logements indignes à l'occupation. Donc le syndicat, non, il est tout à fait en face par rapport à cette neutralité carbone auquel on doit aller. Enfin, on est des gens réalistes. Après, le côté « je vais faire des économies » l'a souvent emporté auprès de nos usagers, nos locataires, nos copropriétaires, parce que je vais faire des travaux, donc du coup, je vais faire baisser la facture. Mais maintenant, il y a une prise de conscience sur le côté climatique, l'enjeu climatique. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose qui est passé depuis quelques années. Peut-être que c'est à cause des jeunes.
Il y a eu un progrès.
Voilà, il y a les éco-gestes, il y a des petites choses. Et puis après, avec le Covid, il ne faut quand même pas l'oublier, ça a rapproché un peu les gens de leur logement, qui est devenu un lieu de loisirs, un lieu d'habitat, un lieu d'école. Et donc, du coup, peut-être tout ce qui était difficile dans le logement a fait qu'il y a eu une prise de conscience sur les circuits courts, etc. On est quand même dans une sobriété aussi qui, à mon avis, a été peut-être un peu plus accentuée à cause du Covid aussi.
Et parmi les copropriétaires, on va y revenir plus précisément, vous dites que c'est la même chose, que vous avez face à vous plus majoritaire. Il y a de tout. Mais vous voyez un progrès ? Vous voyez un progrès dans les âges de copropriété ?
Une copropriété, c'est une société civile. Hein, donc il y a de tout, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et puis on est dans des luttes de voisinage et dans des luttes d'influence. Il y a ceux qui ne peuvent pas faire les travaux et qui vont trouver des tas de bonnes raisons pour ne pas les faire, alors qu'en leur fort intérieur, ils savent qu'ils vont le faire. Donc non, on a un petit peu de tout, bien sûr. Mais les professionnels sont des professionnels qui sont informés, qui sont sensibilisés et qui sont là pour défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est ça.
Et vous êtes allé jusqu'à signer un engagement, d'ailleurs, hein, il y a une année, avec l'autre grande organisation professionnelle.
Absolument.
50 000 copropriétés
en moins de 3 ans, en commençant par les audits énergétiques, par le bilan. Avant, c'est comme aller chez un médecin. Il faut savoir si on est malade, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on a comme symptômes, ensuite le diagnostic et ensuite la posologie.
Bon, mais j'entends.
On en est sur l'audit.
J'entends de l'optimisme, on va approfondir tout ça, mais ça me va bien. Alors, Tanguy Elio a été cité par la présidente de l'UNIS à l'instant. Je parlais de préparation, peut-être d'impréparation de la filière. D'abord, est-ce qu'il y a une filière ? Est-ce qu'elle existe ? Bon, on voit bien qu'il y a des partenariats qui s'installent, qui s'improvisent. Enfin, il faut bien que tout cela se mette en place. Est-ce que c'est suffisamment huilé ? Est-ce qu'on a une vraie solidarité de l'ensemble des acteurs ? Est-ce qu'ils sont tous présents au rendez-vous de cette histoire ? Que ce soit votre société, je parle des entreprises en bâtiment, quelle que soit leur importance, et bien sûr, je parle des gestionnaires professionnels.
Oui, alors si on part de... Je vais revenir un peu sur ce que vous disiez. Alors d'abord, il n'y a pas de climato-sceptique dans notre cœur de métier.
Bah déjà, c'est difficile à dire, c'est que vous ne l'êtes pas. Hein, si vous n'y arrivez pas...
Voilà, exactement, voilà, je ne le dis pas assez. Donc ça c'est un premier point, et je rejoins tout à fait Madame Dubrac, et j'en vois de moins en moins, et j'en vois même quasiment pas, alors peut-être que c'est pas ceux qu'on rencontre le plus, mais chez les syndics, où je vois que la profession a envie de se sensibiliser, ou même l'est déjà, et a envie d'avancer vers ça.
Il y a
ça.
Des effets de génération, vous êtes jeune, enfin, c'est le sentiment que j'ai en voyant votre visage, bon, dans une société comme la vôtre, il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes, il y a des effets de génération, où vous dites aujourd'hui, un copropriétaire de 60 ans a la même sensibilité, un syndic qui a 30 ans d'expérience, il a la même sensibilité, il est converti.
Je pense qu'il y a des effets de génération, effectivement. On le constate tous les jours. Je ne sais pas s'il y a des statistiques là-dessus. On le constate quand même qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibilisées, que souvent des personnes jeunes ont baigné un petit peu plus dans l'écologie, les enjeux écologiques globaux. Peut-être qu'ils se renseignent plus aussi. Effectivement, on le constate. Et il y a de plus en plus de jeunes aussi dans les copropriétés. Nous, on le voit, qui s'investissent dans le conseil syndical, qui s'investissent sur la rénovation de leur logement. Donc c'est quelque chose, oui, qu'on constate. Ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes plus âgées dans les copropriétés sont climato-sceptiques. On a énormément de copropriété qui s'engagent. Et pourtant, les conseils syndicaux, généralement, même s'il y en a quelques-uns, c'est pas les plus jeunes de la résidence, c'est plutôt des personnes qui ont toute l'expérience de la copropriété.
Plus de temps, souvent, qui peuvent être retraités.
Ouais, exactement.
Tout à fait.
Exactement. Et donc, pour continuer là-dessus, il y a toute cette filière donc, chez les syndics de copropriété et chez les administrateurs de biens. Et puis, il y a toute la filière, effectivement, professionnelle. Donc les auditeurs, les bureaux d'études thermiques et puis ensuite les entreprises de travaux aussi qui existent, on ne peut pas dire le contraire, qui font leur travail et qui à mon avis croient à tout ça et ont fait le travail ces dernières années aussi de se développer et de croître comme on l'a fait par exemple chez Helio ou chez d'autres confrères pour accompagner les copropriétés. Mais c'est certain qu'il y a aujourd'hui un enjeu qui est encore plus grand, notamment avec des rénovations qui passent un petit peu des rénovations par geste qu'on avait jusqu'à maintenant à des rénovations globales qui vont arriver et qui doivent arriver très rapidement. Et c'est certain qu'il y aura des difficultés à la fois à avoir des professionnels qui soient compétents, qui soient formés. Et ça, c'est tout notre métier aussi chez Helio.
Alors, on va retourner dans la rue et on va entendre un copropriétaire. On va voir si votre optimisme est partagé. On va voir, alors cela dit, Tanguy vient de parler de complexité, c'est peut-être ça qui aujourd'hui est retenu par les copropriétaires. Ils ont peut-être le sentiment que ce n'est pas si simple. On y va.
Engager des travaux de rénovation énergétique, une démarche complexe.
Il faut voir toutes les arcanes de l'administration, c'est une version Astérix, hein. Vous allez du bureau A au bureau C, du bureau C au quatrième étage, au dizaine sous ça, vous dites, ouais, ça va, quoi, allez, je dégage. Terminé. Voilà, un petit peu. À part ça, tout va bien.
Il y a une prime qui s'appelle Prime Rénov, qui permet aux propriétaires de, effectivement, qui aide les propriétaires pour financer des travaux d'économie d'énergie. Mais alors, faut-il sortir de Polytechnique ou de Saint-Cyr? Moi, je pense que j'ai un cerveau assez bien fait, mais c'est incompréhensible. J'ai été sur le site du gouvernement. C'est un déroulé incompréhensible en différents, effectivement, paragraphes de chiffres. Voilà. Donc, je suis rentrée, j'ai déroulé et je suis sortie. Et je ne sais toujours pas.
Bon, très intéressant. On voit qu'il y a un certain degré d'information. Et puis, derrière, une certaine exaspération face à la complexité, c'est très clair. Alors, je ne sais pas si autour de la table, je disais qu'il y a des experts, je ne sais pas s'il y a des énarques ou des cirards, mais en tout état de cause, cette dame pense qu'il faut des têtes très bien faites pour comprendre ce qui se passe. Alors, je vous disais tout à l'heure, on a aussi très clairement des sondages, non seulement du verbatim, comme on vient d'en écouter, mais qui vont éclairer notre réflexion. Et je propose qu'on regarde les résultats du tout premier. On va demander très largement à des copropriétaires s'ils identifient des freins au sein de la copropriété pour faire voter des travaux de rénovation énergétique. Et quels sont ces freins? Alors, je vous laisse découvrir les résultats. On constate que très massivement, la question de l'argent se pose et que les trois quarts des copropriétaires interrogés considèrent que les travaux coûtent non seulement cher, mais trop cher. On voit juste après, c'est évidemment l'écho de ce qu'on vient d'entendre, que la complexité administrative pour l'accès aux aides est excessive. Et puis il y a la question, alors est-ce qu'on apprécie là le droit, les règles du jeu, la loi de 65 qui régit la copropriété? Sûrement, en tout cas les processus de décision prennent trop de temps, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a peut-être une impatience chez certains copropriétaires, tant mieux. Et puis arrivent deux items mais largement en recul par rapport au précédent. Le temps des travaux, le temps technique des travaux, c'est un reproche qui est fait par un copropriétaire sur six. Et aussi, mais c'est lié, le côté anxiogène de faire des travaux, parce qu'on ne sait pas peut-être si la performance sera atteinte ou si il y a aussi des nuisances évidemment liées aux travaux. Voilà pour le premier sondage. Alors, cette difficulté économique, c'est ce qui ressort très massivement. Hein, c'est l'item à l'avance sur les quatre autres. On rappellera que le gouvernement n'a pas négligé d'examiner la question financière et a confié au numéro 2 de la Caisse des dépôts, hein, Olivier Sichel, il y a maintenant quelques mois, un rapport sur le financement de la transition environnementale. Donc une prise de conscience qui est claire. Alors le rapport d'Olivier Sichel a été très, très précis. Hein, il est allé jusqu'à estimer, chiffrer ce que la transition environnementale coûterait dans un logement en copropriété et aussi dans l'habitat individuel, avec deux chiffres. Alors, bon, qui sont des calculs hein, intermédiaires. On parle de 40 000 euros en moyenne pour pouvoir remettre à niveau une maison individuelle. Et dans l'univers de la copro, qui est aujourd'hui notre sujet, 15 000 euros, j'entends de la part d'un certain nombre de syndics, mais je vais faire réagir et José de Jean-Mathéo et Daniel, que ce serait un peu court. En tout état de cause, il faut peut-être avoir un autre chiffre en tête. C'est l'autre jour le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière qui disait que c'était 600 milliards d'euros qu'il faudrait exposer hein, de dépenses pour remettre à niveau les copropriétés privées. Voilà. Alors qu'on regarde l'unité 15 000 euros, peut-être plus, qu'on regarde l'addition globale, c'est assez vertigineux rapporté à un budget domestique ou rapporté à la richesse de la nation, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que l'État, on a parlé des aides aussi, hein, il y a une conscience de la part des copropriétaires, est-ce que l'État fait assez? J'ai en tête des demandes que Daniel avait faites sur ce sujet, on va y revenir. Est-ce que les outils existants, alors on a parlé de MaPrimeRénov, c'est pas LaPrimeRénov, c'est MaPrimeRénov, cette dame écorchait un peu le nom de cette aide puissante. Est-ce que c'est une aide suffisante? Est-ce que les certificats d'économie d'énergie, je ne suis pas sûr que tout le monde sache que c'est, mais on va y revenir, est-ce que ça suffit? Alors, je me tourne assez naturellement sur ces questions vers Tanguy une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les aides existantes, leur degré de connaissance, leur puissance ou leur insuffisance?
Alors, ce qu'on peut dire, alors déjà c'est MaPrimeRénov, oui, et c'est MaPrimeRénov même copropriété, donc qui est vraiment spécifique à la copropriété et qui existe depuis la fin de l'année dernière, début de l'année, et puis avec un petit temps de mise en marche.
C'est vrai que c'est très compliqué, quand on écoute les copropriétaires, je ne sais pas si c'est peut-être des syndics qui ne leur expliquent pas assez, j'en sais rien.
Par rapport à ce qui a pu exister, c'est relativement simple, même s'il y a des systèmes de bonus, etc., mais MaPrimeRénov copropriété, si je le résume en deux mots, c'est 25% du montant des travaux pris en charge si on atteint 35% de gains énergétiques dans le cadre d'un bouquet
alors,
de travaux.
C'est important la deuxième partie de la phrase. Hein. Ça veut dire qu'on vise une performance, qu'il faudra attester.
Qu'il faudra attester, qui est calculée selon des normes qui sont données par l'ANA et qui doivent être respectées par un bureau d'études thermiques avec des qualifications, etc. Donc ça, c'est la partie MaPrimeRénov copropriété, donc, qui est relativement nouvelle. Donc de dire aujourd'hui si c'est suffisant, si ça fonctionne, etc., ça semble un petit peu compliqué. À cela se cumulent effectivement les certificats d'économie d'énergie, qui existent déjà depuis plus de 10 ans et qui sont utilisés, mais qui ont toujours plutôt favorisé des monogestes de rénovation énergétique.
Il y a eu plusieurs programmes, plusieurs générations de
certificats. Il y a eu plusieurs programmes, il y a eu des coups de pouce, et il y a depuis longtemps des fiches sur la rénovation globale, la rénovation performante,
d'accord,
avec déjà des objectifs de gains énergétiques qui n'étaient pas ou peu utilisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, les incitations financières n'étaient pas plus intéressantes que faire du geste par geste. Et finalement, pour une copropriété, c'est toujours plus simple d'y aller au fur et à mesure et de ne pas voter d'un seul coup un gros programme de travaux.
En deux mots, comment ça marche ces certificats d'économie d'énergie? Je pense que c'est la moins connue des aides. C'est pour ça que je vous demande en deux phrases d'y revenir. C'est un chèque que je reçois ou est-ce que je vais acheter, je ne sais pas, une chaudière et elle va être moins chère parce qu'il y aura un ticket modérateur? Comment ça marche?
Alors, en deux mots, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais en deux mots, c'est porté par le secteur privé. Donc c'est une obligation qui repose sur les fournisseurs d'énergie.
Qui sont les coupables?
Qui sont les fournisseurs d'énergie,
voilà,
qu'on appelle les obligés.
Voilà,
donc ils ont on pourrait appeler ça une dette à payer, puisqu'ils doivent financer la transition énergétique.
Ils doivent se racheter.
On pourrait dire ça. Il y a des similarités avec la taxe carbone. Et donc ils doivent financer la transition énergétique.
Avec la Bible aussi.
Et donc ils doivent verser des aides pour des travaux de rénovation énergétique. Et ce qui est en train de se passer dans les certificats d'économie d'énergie, qui rejoint assez bien MaPrimeRénov copropriété, c'est que toutes les aides monogestes sont en train d'être moins incitées pour mieux inciter des travaux de rénovation performante également. Et donc, ils se sont alignés en plus avec MaPrimeRénov copropriété, le fameux 35% pour les copropriétés, est vrai aussi dans les certificats d'économie d'énergie avec à peu près les mêmes conditions d'attribution des primes.
D'accord.
Donc, on arrive, en plus des 25% de MaPrimeRénov copropriété, à une prime C2E qui, selon certains critères, peut être à 10%, 20% du montant des travaux, en plus de MaPrimeRénov.
D'accord. Alors, on va aller dans la réalité des copropriétaires. José de Jean Matteo, Immo de France, c'est une enseigne nationale importante parce qu'on parle aujourd'hui de tous les territoires. Hein, voilà. Quelle que soit leur sociologie, toutes les régions n'ont pas la même richesse. Bon. Quand on a cette vision panoramique sur la gestion de copropriété de manière très concrète, très, très opérationnelle, est-ce qu'on peut dire que on a trouvé les bons arguments pour convaincre les copropriétaires? Alors, Daniel Dubrac disait, il y a une sensibilité majorée aujourd'hui à la protection de la planète, arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que, on sent cela? La réduction de la facture, on en a beaucoup tiré argument. Moi, je me rappelle les propos de Jean-Louis Borloo à l'époque. Hein, les grandes fédérations, lui, il s'en faisait partie, avait signé des accords et on voulait faire baisser la facture. On pensait que ça convaincrait. Est-ce que ça suffit? Est-ce que la valorisation, la valeur verte, on va l'appeler comme ça, on l'appelle comme ça dans les bureaux depuis longtemps, est-ce qu'elle existe dans le résidentiel? Est-ce que d'autres arguments peuvent porter? On peut penser au confort peut-être de vie aussi. Voilà, qu'est-ce qui se passe et est-ce que les arguments compensent l'effort financier qui va quand même rester après l'utilisation des aides?
Alors, tout ça est vrai. Tout ça se combine aujourd'hui. C'est-à-dire l'incitation personnelle à réduire sa consommation ou en tout cas à réduire son impact sur la planète existe. Son incitation à vouloir réduire sa facture avec l'augmentation du prix de l'énergie existe. Tous ces arguments, tous ces éléments se combinent aujourd'hui d'une façon disparate, d'une façon diverse en fonction des sensibilités. Je reboucle sur les thématiques sur lesquelles nous étions dans les questions antérieures. Il en reste une mesure, c'est l'effort financier et ce que aujourd'hui les copropriétaires doivent s'acquitter et cette prise de conscience.
Le reste à charge, on peut dire ça. Hein. Ouais,
voilà. Ouais. Alors, au-delà de la présentation des aides et de cet accompagnement, qui, vous l'avez vu, n'intervient de plus en plus que quand on fait des travaux très importants, c'est-à-dire une rénovation globale, ce qui est un peu anachronique par rapport à la situation dans laquelle se trouvent les copropriétaires et les copropriétés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a très peu de travaux. On est dans un court-termisme du copropriétaire qui reste 7 ans. On est dans une situation où on veut réduire son budget dans l'immobilier, où on a des sollicitations de ci, de là. On est à la lisière d'une crise que nous avons tous en tête. Eh bien, à ce moment-là, on demande à quelqu'un qui marche à quatre pattes de faire un 100 mètres et de battre Usain Bolt. C'est un peu compliqué.
Parce qu'on part de loin.
Parce qu'on part de très loin. Il faut apprendre à marcher pour commencer ensuite à courir et aller plus loin. Et on est guidé en cela par la loi, celle que tu as évoquée tout à l'heure, celle sur laquelle on a beaucoup travaillé, les 30 mesures pour lutter contre la dégradation des copropriétés qu'avait commis Procivis, LAB, et dans lesquelles un bon nombre d'entre nous étions présents, dans les réflexions tout du moins.
Qu'est-ce que c'est un think tank, Procivis, LAB?
Oui, c'est un think tank, c'est ça. On a travaillé ensemble sur ce sujet-là. Ça veut dire qu'on avait apporté le plan pluriannuel de travaux, l'obligation de proposer des financements en même temps que des travaux. Ces mesures-là sont d'août dernier pour le plan pluriannuel de travaux,
oui,
et de juillet de l'année d'avant pour l'obligation de financement. Donc ça veut dire que c'est très frais. C'est pas du tout, et si vous vous souvenez, entre juillet de l'année antérieure et aujourd'hui, il y a eu des confinements, des difficultés, des AG qui sont passés à autre chose. Donc la pédagogie...
Ça a été une année blanche avec l'impossibilité de réunir les assemblées générales physiquement. Il s'est passé quand
sûr,
même. La vie a continué en copropriété. Mais est-ce que ça a été une année blanche? Je demanderai l'avis de Daniel aussi.
Procivis Lab avait été sollicité pendant le premier confinement sur éviter l'année blanche. Et nous avions fait des propositions qui bouclent sur la réponse que je voulais vous faire. C'est de fait embarquer tous les travaux qui sont déjà dans le pipe, qui sont déjà dans les projets, qui sont déjà préparés dans les copropriétés. Les verdir, c'est-à-dire passer d'un ravalement à un ITE, c'est-à-dire une rénovation énergétique par l'extérieur, passer d'une modification de la toiture à une isolation. Ça, c'est un effort qui est à la mesure, qui est très facile à faire. Et on avait proposé...
Donc, c'est pas la politique des petits pas?
Ben, c'est celle où on apprend à marcher. C'est celle où, tout simplement, on a une capacité financière à faire face. C'est celle juste de la réalité dans laquelle se trouvent les habitants et ceux court-termistes. C'est-à-dire qu'un effort mesuré peut être fait par quelqu'un qui va vendre dans les 2 ans, parce qu'il va changer. mais qui ne sera pas réalisable s'il doit faire 3 à 4 fois plus d'investissement dans son bien.
On parlait d'âge tout à l'heure. C'est vrai aussi qu'on peut se dire quelqu'un qui, par l'âge, a une moindre perspective, hein, faut dire les choses comme elles sont, peut préférer une plus grande modestie, on va dire, dans le...
Oui,
dans
mais
le,
la, situation, la situation financière pourrait venir compenser ça. Je veux dire par là que le jeunisme n'a pas...
Exact.
Enfin, je ne pense pas que... Enfin, je, bien sûr, j'ai un avis, mais le jeunisme n'a pas son sens là. On est confrontés tous, quels qu'ils soient... Et personne âgée a aussi des petits-enfants, des enfants, et la préoccupation qu'ils ont pour les uns et pour les autres.
De transmettre le bien,
et tout, non, de leur vie à futur, dans de bonnes conditions et, premières. Ils n'ont pas fait ça que pour mourir, ils ont fait ça aussi pour survivre avec eux. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait proposé à ce que ma prime rénov' se déclenche à 20%, pas à 30%.
Là, on parle de 35. 35% voilà. De performance.
On proposait qu'elle se déclenche à 20%.
Ça manque de, pour toi, ça manque de réalisme.
C'est juste un peu
trop
loin.
Exigeant.
C'est le pont trop loin. Le mieux, quelquefois, l'ennemi du bien, on en parlait juste avant la réunion, eh bien, ça s'applique là.
On retiendra cette phrase, le mieux est l'ennemi du bien.
C'est le pont trop loin. On sait tous que, bien sûr qu'on voudrait un 100% de la rénovation. Mais apprenons à marcher. Et le plan pluriannuel de travaux est un guide pour ça.
Il est décennal, on le rappellera. Hein.
Ben, ça veut dire que dans les 10 ans. Sur les 10 années qui viennent, je pourrai coordonner ces étapes parce que financièrement, je pourrais y faire face. C'est juste que, prenons la situation inverse. Je force, j'incite, je contrains. Quelle est la situation à l'arrivée? Ben, c'est des situations de copropriétaires avec des impayés, des situations contentieuses, des copropriétés qui vont petit à petit se dégrader parce que les services ne vont pas pouvoir être assumés. Le cercle de la dégradation, celui contre lequel on veut lutter, est le plus important, à mon avis.
Alors, on va y revenir tout à l'heure, on va y revenir parce qu'on va parler de l'approche sociale et on va le faire en particulier avec Estelle.
Il se pose dans la réalité de la situation financière de ces personnes qui, aujourd'hui, face à l'augmentation du prix de l'énergie, de l'essence, ne vont pas pouvoir consacrer... ils vont pas pouvoir, tout simplement.
Alors c'est vrai que depuis, depuis le vote qui a duré de nombreux mois de cette loi, il s'est passé des choses et qu'on voit aujourd'hui une conscience que le pouvoir d'achat n'est pas suffisant. C'est une crise sociale qui sort, hein, clairement.
Alors la proposition qu'on avait faite de réduire, parce que je la termine, réduire à 20% l'attribution des MaPrimeRénov' copro et de financer 30% des travaux. Vous voyez que c'est deux mesures qui... si je fais des travaux classiques et que je rajoute de la rénovation, je vais avoir, allez, un peu plus que 30, mais grosso modo, cette rénovation pourra être financée. Le plan de relance en Allemagne a beaucoup plus été polarisé sur le verdissement des copropriétés que ce ne l'a été chez nous. Il faut en prendre la mesure et la volonté.
La question de la valorisation du bien, est-ce que c'est un argument Daniel, on a entendu, et c'est vrai qu'on en parle moins, réduction de la facture, ce n'est pas une contrepartie suffisante. Bon. Quand on voit les efforts qu'il va falloir faire, le reste à charge, et qu'on dit, mais vous allez baisser votre facture peut-être de 20 ou 25%, ça ne suffit pas. La valorisation du bien, est-ce que c'est un argument qui porte? Est-ce que les copropriétaires aujourd'hui, on peut faire jouer cette corde sensible en leur disant, ben, oui, vous allez non pas dépenser, mais investir en fait, et valoriser votre bien individuel et naturellement aussi l'immeuble collectif.
On s'emploie à faire comprendre ce que veut dire valeur verte d'un bien, c'est-à-dire au-delà de la valeur vénale, la localisation du bien, les services autour du bien.
Oui.
Là, c'est vraiment le fait, la qualité finalement du logement dans lequel on va habiter, une qualité qui soit une qualité liée à l'environnement, mais aussi au confort. On parlait de vieillissement de la population, donc ils seront bien contents que le logement soit bien confortable à cet effet. Donc oui, la valeur verte, c'est quelque chose que l'on, dont on fait la promotion parce que ça a à la fois cette valorisation financière, mais aussi une valorisation par rapport aux aspects d'écologie. Sur les problèmes de financement, on a parlé de MaPrimeRénov'. En copropriété, c'est quand même pas trop encore déployé. Il faudrait que tous les copropriétaires y aient droit à cette prime. En l'occurrence, les locaux commerciaux, de façon un peu plus incitative que ça n'est aujourd'hui. Il y a aussi le financement, le reste à charge. Et là, on a parlé du rapport Sichel, où il y a des tas de préconisations. Mais si vraiment...
Les 15 000 euros, ils sont réalistes, Daniel?
Suffisant. 10 000 pour une classe F, mais plutôt 20 000 pour une classe G.
Voilà. D'accord. Non, 5 000, non.
D'accord.
Mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. Plutôt 20 000 que 15 000, allez. Mais ceci étant, donc, trouver des emprunts communs dans l'habitat collectif, parce qu'en fait c'est ça, c'est le propriétaire bailleur privé dans l'habitat collectif qui nous pose problème. Ça c'est un vrai sujet, il y a de la réglementation bancaire qui fait qu'on ne peut pas faire des choses. Et donc ça vraiment, nous on avait fait des propositions aussi sur les primes rénov', parce que comme il y a la loi de finances qui régulièrement change la nature des travaux, change le montant de la prime.
Absolument.
Donc sanctuariser cette prime,
la pérennisation.
Une fois qu'on l'a votée, et il faut la voter au moment des travaux, il faudrait la connaître au moment des travaux,
et
ça c'est vraiment la
pas.
Charge des AMO, des partenaires comme Elio ou le réseau FER qui donne des informations. Une fois qu'on l'a, on l'a jusqu'au bout, même si on ne fait pas les travaux dans l'année après.
Alors, un sondage Elio va nous démontrer ou pas que vous avez raison sur la sensibilité de vos clients à la valeur verte. On va le regarder tout de suite. On va regarder si l'étiquette énergétique compte lorsque on achète un bien. Voilà. Alors, je ne veux pas vous faire de peine, surtout à Daniel, ça peut être un objectif, ça doit être un objectif sans aucun doute des syndics. Mais aujourd'hui, et en tendance, je crois que ça s'améliore, on voit quand même que pour 85% de ceux qui ont répondu, la vertu énergétique n'a pas été une aide à la décision d'achat. Et on parle de biens en copropriété. Voilà, alors ça veut dire qu'il y a du travail. Vous avez sans doute raison sur le poids de cet argument, hein, je vous ai incité à le dire, mais on n'y est pas encore tout à fait. Alors, sur le retour sur investissement, une sensibilité qui est réduite.
Sur le retour sur investissement, il ne faut pas le négliger. Il a un impact surtout sur la capacité des habitants à rester dans le bien dans lequel ils sont. C'est-à-dire que l'augmentation des prix de l'énergie amène à ce qu'on commence à avoir, d'abord on le voit sur les copropriétés difficiles, mais sur les autres copropriétés, des coûts de charge qui augmentent et donc des copropriétaires qui vont commencer à avoir des difficultés à faire face à ces charges.
Le syndic, il est crédible sur la maîtrise des charges. On vous attend beaucoup là-dessus. C'est vraiment un critère de choix. L'efficacité d'un syndic, on peut la mesurer à ça. Donc là-dessus, vous avez un levier pour dire rien ne va plus, il faut engager des travaux pour réduire vos factures, enfin la facture collective et vos factures individuelles.
Alors là, la démonstration avec Elio est tout à fait intéressante. Parce que je reviens sur l'alchimie technique du financement des travaux. Si on va voir des copropriétaires en imaginant que le remboursement, et on ne fait pas de travaux pour l'hypothétique rendement des travaux. On fait des travaux pour d'autres raisons que l'hypothétique rendement des travaux. Par contre, on a besoin de structures comme Elio parce qu'aujourd'hui, faire face à des rénovations énergétiques ou des rénovations qui intègrent l'énergie prend en considération ce que dit la dame est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que même si ma prime Rénov' Copro est simple...
Nos copropriétaires ont du bon sens.
C'est compliqué.
C'est clair.
Et donc, aujourd'hui, la préoccupation première, je dirais même avant la technique de ce qu'il faut faire comme travaux, c'est ce que l'on pourra financer, comment cela pourrait être financé. Cette AMO financière, on l'avait demandé dans Procivis Lab, donc j'insiste vraiment, cette AMO financière est première. Il faut commencer par savoir ce que l'on peut acheter pour ensuite pouvoir le faire. On aimerait tous avoir une Ferrari, mais on finit par une Twingo parce que ce que l'on peut avoir, c'est une Twingo. Eh bien, ça, c'est aussi une analyse qui est faite avec Elio. Ils ont des capacités techniques, des accompagnements. Cette AMO financière est première avant toute autre approche pour le syndic.
Alors,
ça lui permet d'avoir une pédagogie sur la réduction, sur le montant du reste à charge, sur tout le reste qui est décliné, sur la ressource à aller chercher auprès d'un financement bancaire. Cette articulation financière, je dis, part aujourd'hui, non pas de l'analyse du bâti comme avant, mais de l'analyse financière du possible.
Estelle, je ne t'ai pas encore donné la parole. Là, le lien est immédiat. On a parlé aussi de copropriétaires à faible revenu ou à très faible revenu. On est très loin, effectivement, de ceux qui peuvent souhaiter ou la Ferrari ou la Rolex, hein, pour reprendre ces mauvaises images. En tout cas de cause, il y a ceux qui comptent. Alors, qui peuvent être des copropriétaires bailleurs, hein, pour qui le rendement locatif va être important. Et le rendement locatif, il est le fruit d'une équation. Donc, si on engage des dépenses, voilà, il va être amputé, même s'il y a une fiscalité qui favorise les travaux. On pourra d'ailleurs porter un jugement sur cette fiscalité. S'ils sont copropriétaires occupants, mais copropriétaires pauvres, Voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parler de ceux qui ont les moyens n'a pas grand intérêt, hein, même si c'est l'approche macroéconomique qui nous est conduite. Mais pour tous les autres, ceux qui souffrent d'une érosion du pouvoir d'achat, c'est les classes intermédiaires, hein, sans aller jusqu'au plus fragile. Quelle sensibilité on a? Solia, c'est une association, un réseau associatif, alors qui est auprès des syndics et des copropriétés, et puis qui a ce regard-là particulier sur les plus fragiles des copropriétaires.
Oui, effectivement, le mouvement Solia intervient sur l'amélioration de l'habitat au sens large et sur l'accompagnement dans tout ce qui concerne l'amélioration de l'habitat. Et donc, forcément, sur ces questions d'amélioration des copropriétés et d'accompagnement des copropriétés vers l'amélioration énergétique, on est très présent. Et on est en accompagnement, alors à la fois des collectivités territoriales, quand elles ont des dispositifs cibles qui permettent d'intervenir et de mettre un focus à un instant T et de pouvoir accompagner de façon massive ou de façon ciblée certaines copropriétés avec des axes privilégiés, ou dans le droit commun, ce qu'on appelle dans notre jargon le DIFU, pour toutes les copropriétés avec les aides de droit commun pour les accompagner effectivement dans des projets de rénovation. Après, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Effectivement, la première étape, c'est de réaliser un audit, de pouvoir programmer intelligemment les travaux, de savoir d'où on part, où on peut aller, effectivement, jusqu'où on peut aller, mais par quelles étapes on peut passer pour y aller, pour savoir ensuite quelles sont nos capacités financières en fonction de la capacité contributive des copropriétaires à un instant T, donc en fonction de la composition de la copropriété, puisqu'effectivement, on a des bailleurs, on a des propriétaires. Alors, on a parlé de propriétaires pauvres. Dans notre jargon, nous, on parle de modestes ou très modestes en fonction des critères de l'ANA, puisque ça, c'est des critères qui sont établis à partir
de... On parle de déciles aussi de revenus, hein, oui, dans la classification, oui, de l'INSEE. En tout cas, ceux qui sont dans les déciles du bas, on va dire. Hein.
C'est ça. Et après, quand on est dans des critères de modestes ou très modestes selon l'ANA, on peut déclencher aussi des aides et des aides complémentaires qui vont venir un petit peu abonder les aides de droit commun pour certaines parties de la population, pour les aider un peu plus favorablement.
Deux choses. Est-ce que vous croyez qu'il y a un doute qui pourrait être majoré chez ceux qui ont le moins de revenus sur l'objectivité des diagnostics? Daniel évoquait tout à l'heure un débat qui ne sera pas le central aujourd'hui entre nous, qui est la fiabilité du diagnostic de performance énergétique. Le gouvernement a refabriqué un nouveau moteur et on va avoir un nouvel outil, semble-t-il, fiabilisé. Mais est-ce qu'il ne reste pas un doute, sans même parler de cet épisode-là, dans la tête des copropriétaires? Est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce que les outils sont effectivement aujourd'hui aussi fiables que quand on fait un scanner, voilà, pour reprendre vos métaphores, hein, et on sait si on est malade ou si on ne l'est pas?
Il n'y a pas qu'un doute, il y a des vraies limites dans les diagnostics qui peuvent être réalisés aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette étape du diagnostic, elle est cruciale, mais aujourd'hui elle est complètement sous-estimée. C'est très difficile de démarrer une réflexion d'un projet de travaux en finançant déjà la partie diagnostic. Donc les copropriétaires sont souvent tentés de faire un diagnostic au rabais, entre guillemets, un diagnostic rapide, qui ne permet pas forcément d'approfondir et d'avoir une notion complète et vraiment cohérente de l'état des lieux pour pouvoir amorcer une prise de décision. Le diagnostic, c'est à la fois un état des lieux qui est essentiel et à la fois un outil d'aide à la décision. Si on va trop vite sur cette étape-là, si on fait un diagnostic rapide peu cher, forcément, le niveau d'aide à la décision, il est moins performant.
Il peut être financé, ce diagnostic.
Il peut être financé. À notre avis, il doit être financé si on veut aller sur des diagnostics performants, très complets, qui peuvent être assez chers, effectivement.
Aujourd'hui, il est finançable. Il y a effectivement des aides qui existent pour financer un diagnostic complet, ambitieux.
Alors oui, il y a des aides qui existent. Si on prend l'exemple de Paris, par exemple, on a un chèque à l'audit sur Paris qui permet justement...
C'est la ville qui...
C'est dans un dispositif spécifique sur la ville. C'est l'Agence parisienne du climat.
D'accord.
Qui accompagne les copropriétés du territoire et qui peut financer justement cette partie études diagnostiques pour justement faire en sorte qu'elle ne soit pas dévalorisée, qu'elle ne soit pas sous-investie par les copropriétés, puisqu'on sait que c'est une étape indispensable de l'aide à les décisions pour bien calibrer un projet et bien établir le potentiel de financement qu'il y a derrière et la capacité à accompagner toutes les composantes de la copropriété. Puisque Daniel Durac l'a rappelé tout à l'heure, une copropriété, c'est une multitude de propriétaires à un instant T qui doivent se mettre d'accord sur un projet, alors qu'il y en a qui sont sur le départ, il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui sont à la retraite et qui ont une baisse de revenus, il y en a qui viennent de s'endetter pour acheter. Donc il faut réussir à les mettre en cohérence, à les mettre d'accord autour d'un projet à un instant T.
Est-ce que les obligations environnementales dont on parle ensemble aujourd'hui peuvent abîmer ces communautés de fait et de droit que sont les copropriétés? En clair, imaginons 20 copropriétaires et puis 3 qui ont des très faibles revenus, qui sont en difficulté, et puis il y a un vote collectif, il faut suivre, et on peut être mis dans une situation extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a une crainte? Vous intéressez à l'équilibre social des copropriétés?
Bien sûr, c'est un souci qu'on porte, nous, très clairement dans ces réflexions-là. Aujourd'hui, nous, on est là pour parler d'habitat, pour parler de logement. Les entrées dont on parle beaucoup et qui nous réunissent aujourd'hui, ce sont des entrées environnementales, de performance énergétique. On a parlé de gains énergétiques, on a parlé de 35% de gains énergétiques. C'est très bien, c'est très performant. Mais qu'en est-il pour les copropriétés qui, en faisant le maximum des travaux, de tout ce qu'elles pourront faire, en isolant parce que petit bâtiment, parc ancien, etc., on n'atteindra que difficilement 20-25%, même en mettant énormément d'argent sur la table. Et que se passe-t-il quand on a effectivement quelques propriétaires modestes et très modestes au milieu d'un immeuble qui va suivre le mouvement, vouloir atteindre les 35% coûte que coûte pour obtenir les aides, sans forcément se préoccuper des 3 personnes qui n'arriveront pas à suivre dans l'immeuble?
Vous partagez l'idée qu'il faudrait, comme le disait José, baisser un peu l'exigence et que 35% à la barre est placée haut?
Il y a plusieurs idées qui peuvent être cumulées. C'est effectivement, pourquoi pas baisser l'exigence et avoir quelque chose d'encore plus large qui pourrait s'adresser à des copropriétés encore plus diversifiées en ayant une exigence moindre, avec peut-être d'autres critères, pas forcément en baissant l'exigence, mais en ayant des critères qui ne soient pas uniquement la porte d'entrée par le gain énergétique. C'est-à-dire que l'effort financier par rapport à la valeur vénale de l'appartement qui est fait pour pouvoir le rénover et l'entretenir énergétiquement peut être un critère intéressant à regarder. La composition de la copropriété aussi est un critère intéressant. Après, l'interroger au stade de l'audit, c'est complexe parce que ça repose sur une enquête d'occupation et ça, c'est de l'ingénierie, donc c'est pas simple. Hein.
On rappellera que pour les publics auxquels vous êtes très attentifs, c'est la double peine, hein, puisque un tiers des logements qui sont des passoires énergétiques sont détenus par des personnes modestes et très modestes. Hein. On rappellera ça dans nos copropriétés. Le reste à charge aujourd'hui, en l'état actuel des aides existantes, il vous paraît soutenable par les personnes les plus modestes, ou il faudrait encore des aides qui ciblent davantage, qui quitte à donner moins aux autres, je le dis de façon provocatrice, mais à mieux redistribuer?
Alors forcément, il y a des réflexions par rapport à ça. Donc là, on parle d'une aide, une aide socle qui est pour tout le monde. Donc cette aide, elle est incitative, elle est très importante. Nous, c'était un outil qu'on avait dans des dispositifs publics qui n'existaient pas dans le droit commun jusqu'à présent. Aujourd'hui, elle est généralisée par l'État dans le droit commun et c'est très important parce qu'enfin, on parle en collectif. On s'adresse à des copropriétés en leur proposant des outils qui s'adressent à un collectif. Donc ça, c'est vraiment très important. Il ne faut absolument pas le perdre et il ne faut absolument pas négliger cette avancée. Par contre, évidemment, une fois qu'on a dit que cette aide collective socle, elle était un outil d'incitation très puissant, nous, on pense qu'effectivement, il faut regarder comment on va majorer les aides pour les propriétaires occupants et très modestes. Alors, là, vous parliez de prendre dans le pot commun pour donner plus aux modestes et très modestes.
C'est une suggestion.
Alors, ça, on connaît, on sait faire. C'est très complexe à organiser. Mais ça s'appelle le mixage dans nos dispositifs. C'est pas toujours simple à instruire, hein, comme aide, parce que c'est de la mécanique au cas par cas et ça fait bouger tout le plan de financement dès qu'il y a une situation qui évolue. Mais ça reste possible. Le mixage, aujourd'hui, n'est pas possible, à ma connaissance, dans le droit commun. Par contre, on pense qu'une majoration aux aides des propriétaires modestes et très modestes et une façon simple d'y répondre. Je reviens sur le micro-trottoir de tout à l'heure. Restons sur des choses simples, compréhensibles pour les
gens.
Donc
une surpression, quelque sorte.
Voilà, leur expliquer qu'on va enlever un petit peu du droit collectif pour majorer sur les individuels. Ça peut être aussi des départs internes.
Mais je pense que c'est pas facile à faire passer. C'est très clair.
Deuxième idée, bien sûr. Donc là, le reste à charge, on parle de ce qui reste à financer. Il faut savoir qu'en matière de financement et de subvention publique, il y a non seulement le financement en amont, le reste à charge, c'est une fois qu'on a tout financé. Mais les subventions n'arrivent qu'à la finalité des travaux.
Ah, très intéressant. Très intéressant.
Et qu'on peut prouver que les factures sont acquittées et qu'elles ont été réglées. Donc les copropriétaires,
donc en trésorerie,
théoriquement, doivent avancer.
Il faut avancer l'argent.
L'ensemble des subventions pour pouvoir ensuite, l'ensemble des travaux, pardon, pour pouvoir ensuite bénéficier des subventions. Et il leur reste le reste à charge. Et donc toute la réflexion qu'on mène aussi, c'est comment à la fois on peut avancer les subventions. Donc ça s'appelle le préfinancement. Et donc là, il y a des acteurs qui interviennent dans certains secteurs, auprès de certaines copropriétés. Comment le généraliser? Ça, c'est une vraie question. Et puis, reste enfin ce reste à charge qui peut être important, qui n'est pas forcément anodin. Là, on parlait de quote-part de travaux de 15 000 euros. Enfin, si on parle de rénovation globale et
voire 20.
Ouais, moi, j'ai plutôt des exemples autour de 20 à 35 000 euros par logement. Hein, puis après, ça dépend où on est, en zone tendue, pas tendue, quelle est la valeur du
logement.
Et
si on part de plus loin, on parlait de passoire énergétique, on va être plus près de 35 000 que de 10,
probablement. Exactement. Et là, attention aussi de quoi on parle. Est-ce qu'on parle uniquement des travaux de rénovation énergétique ou est-ce qu'on parle de reprendre tout le retard d'entretien qui est celui des copropriétés aujourd'hui, qui est réel? Parce que bien souvent, on focalise sur les travaux de rénovation énergétique. Tout à l'heure, Elio rappelait qu'on parlait de 25% des travaux éligibles. Mais quand je fais mon diagnostic, j'établis tous les travaux dont la copropriété a besoin. Et en fait, ce socle-là, tout n'est pas éligible à la rénovation énergétique. Ouais. Il y a forcément des travaux que j'ai besoin de faire qui ne sont pas éligibles, mais qui sont nécessaires et indispensables avant d'envisager une amélioration énergétique. Donc, de quelle assiette de travaux on parle ? De quel préfinancement des aides on parle et de quel financement éventuellement du reste à charge on peut mettre en place derrière pour aider ceux qui ne pourraient pas assumer ce reste à charge.
Alors, on va parler vraiment du rôle du syndic. On va focaliser sur le rôle du syndic, sur l'efficacité du syndic. Et encore une fois, et même si ça doit faire de la peine à certains ici, on va regarder un sondage que Elio a souhaité faire auprès des copropriétaires pour mesurer si les syndics professionnels font bel et bien des recommandations sur les travaux de rénovation énergétique et s'il y a une compétence en la matière. Alors, il est très simple à lire, hein, le sondage. Daniel, je te demande de regarder avec attention, ainsi que José, mais 82% des copropriétaires prétendent que les recommandations ne leur ont pas été faites par le syndic de copropriété. Ça m'évoque un courage qu'avait eu Daniel, ton homologue, hein, Jean-Marc Torollion, salon de la copropriété il y a 2 ans. Hein, un sondage avait été fait par la FNAIM qui avait révélé que, de mémoire, 65% des syndics ne savaient absolument pas de quoi on parlait. Alors, en 2 ans, là, du progrès a été fait pour quantité de raisons. Mais bon, très clairement, je me tourne vers toi, Daniel. Bon, comment tu réagis à ça? Je connais ta volonté, l'action du syndicat. Le résultat, en tout cas, il n'est pas encore perçu. Et effectivement, tout à l'heure, je disais, est-ce que vous pouvez sortir par le haut, vous, syndic, de cette séquence transition énergétique? Ou l'inverse, je vais citer Hugues Périnet-Marquet, hein, je l'ai cité sans le nommer tout à l'heure, président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, et puis bon, un grand juriste de la copropriété. Il a signé une préface, pardon, d'un livre dans lequel il dit la chose suivante, une conception de l'écologie qui pourra apparaître à certains copropriétaires, donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est une conception de l'écologie qui pourra apparaître à certains copropriétaires comme punitive. Elle prend en otage un syndic qui se retrouve entre le marteau et l'enclume. Lui qui était déjà le percepteur de charges devient par la grâce de la loi, sinon l'ordonnateur des dépenses, du moins celui qui doit constamment rappeler aux copropriétaires leur nécessité. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une grande lucidité. Hein, il n'est pas syndic, mais c'est un grand observateur de la copropriété. José, si tu veux, parce que tu boues et ensuite Daniel.
Je suis. Ce risque-là existe. Si on ne prend pas les outils et si on ne fait pas la démarche progressive de mettre en mouvement les copropriétaires avec le plan pluriannuel de travaux, avec les étapes, si on n'apprend pas à marcher, si on n'apprend pas à se mettre debout, eh bien on ne fera pas cette course de la lutte contre la rénovation énergétique. Au contraire, on va avoir des syndics qui vont craindre de porter des copropriétaires dans la difficulté, de porter des situations difficiles à des copropriétaires qui vont de fait le refuser.
De ne pas être élu peut-être, hein, tout simplement.
À l'échéance, si on force, ce risque-là, il est mesuré, bien évidemment. Sûr, bien Alors sûr. Que c'est une chance considérable. Et c'est, bon, dans le réseau ImoTrans, c'est ProCivis, et puis l'UNIS et puis la FNAM sont dans ce mouvement. Je ne privatise pas cette énergie. Elle est commune aux fédérations, aux syndicats et à notre réseau. D'avérer le rôle fondamental du gestionnaire dans sa copropriété. C'est cette fierté de pouvoir conduire. Si on revient je dirais, quelques années avant, au moment de la loi Auguet et de la loi de la 65, il y avait la fierté de son patrimoine. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir cette fierté-là de nouveau en main. C'est-à-dire, oui, j'ai participé à l'amélioration de ce bien, oui, je suis fier de ce que j'ai réalisé, oui, je suis fier que mes copropriétaires soient contents et satisfaits, oui. Cette ambition du gestionnaire est vraiment l'évolution du rôle du syndic dans cette copropriété.
Alors,
il faut qu'il la prenne, c'est une vraie ambition.
Daniel, je pense que tu ne peux que souscrire à ce que José vient de dire. Il invoque d'ailleurs un avis collectif, hein,
oui,
des fédérations, les grandes enseignes comme les syndics indépendants. Je vais forcer le trait. Est-ce qu'effectivement, on ne peut pas imaginer une désintermédiation? Vous tenez très bien votre marché, les syndics, hein, on le rappellera, hein, c'est 85% des copropriétés qui sont sous gestion professionnelle, déléguées. Est-ce qu'on peut, imaginer que finalement les syndics se retrouvent dans une situation telle que des copropriétés préféreront se passer de leurs services parce qu'ils viennent annoncer des mauvaises nouvelles, parce qu'ils ne les accompagnent pas assez? Voilà, ton regard sur, très concrètement et sans complaisance, ce n'est pas ton style.
Non. Déjà, quand j'entends ce que j'entends, le sondage, bon, c'est sûr qu'il y a du travail à faire. Voilà. On gère beaucoup de communautés, en fait. Des communautés hétérogènes, locataires, propriétaires, même si le locataire n'a pas de pouvoir de décision, propriétaires bailleurs, des personnes âgées, des personnes non âgées, des modestes et des pas modestes. Donc tout ça, c'est vraiment compliqué, c'est très hétérogène, premièrement. Deuxièmement, je voudrais quand même savoir, dans le sondage, si le syndic a proposé, par exemple, le diagnostic technique global, et combien l'ont proposé. En général, on l'a pratiquement tous proposé. Et est-ce que ça a été voté? Voilà, parce que c'est quand même intéressant de connaître sa maladie, sa pathologie de son bâtiment, pour connaître les mesures à prendre.
Bien
donc, déjà, ça, c'est. Sur la méconnaissance, peut-être, et l'inquiétude des syndics, qui a toujours la suspicion de faire des travaux parce qu'il y a des honoraires derrière. Certaines associations de consommateurs ne nous ont pas forcément aidés là-dessus. Il peut y avoir cette suspicion, mais on la met de côté.
Ou elles vous ont aidé en crevant l'abcès et en te conduisant à dire que, voilà, que c'est
voilà,
un sujet.
En revendiquant le rôle de tiers de confiance, parce que nous sommes un maillon indispensable dans la prise de décision, qu'on le veuille ou non, y compris quand il y a des interventions publiques, quand il y a des aides publiques qui arrivent. À un moment donné, il faut être en Assemblée générale avec le point qui est mis à l'ordre du jour. Donc, il faut sensibiliser les copropriétaires, mais avant, les professionnels, évidemment, il y a toute forme de formation sur le sujet. Les aides sont compliquées quand même, malgré tout. Enfin, ce n'est pas qu'elles sont compliquées, mais c'est tel type de travaux, à tel moment, etc. Et donc, on a besoin de gens qui connaissent le sujet, parce que ça, les syndics ont peut-être peur de dire des bêtises ou de dire, voilà, quelque chose était vrai à un instant donné, c'est plus vrai, et du coup, il peut y avoir un problème de confiance qui peut être un peu délité en matière de copropriétaires. Mais on a vraiment à gérer ce collectif, c'est un collectif avec des gens qui sont hétérogènes, et il faut leur faire prendre la bonne décision au bon moment. Et sur l'entretien, c'est important. C'est important. Et après, il y a la rénovation énergétique. L'année du Covid a été une année blanche.
Alors,
elle a été posée tout à l'heure. Oui, on n'a pris que des décisions de type travaux curatifs, mais absolument pas de travaux, je dirais, de
confort, on va y revenir.
Et encore moins de rénovation énergétique.
On va parler de votre matière de base qui est la loi, hein, les règles du jeu de la loi 65, maintes fois modifiées, dans le sens plutôt d'ailleurs de favoriser depuis longtemps la rénovation énergétique. Et on va voir ce que pense dans la rue un copropriétaire de cette facilité ou l'inverse de faire voter des travaux de façon collective. On en voit.
Est-ce que vous arrivez à faire voter des travaux dans le cadre d'AG en visio?
Moi, ça m'est arrivé de faire des AG en visio. Vu qu'il y a certains copropriétaires pour lesquels ça ne marchait pas, j'en avais un au téléphone, l'autre au téléphone portable en haut-parleur, et certains en visio, mais sans caméra, le son ne marchait pas bien, donc non, clairement, j'en ai fait 2-3, mais j'ai arrêté. Impossible.
Alors, très intéressant, on entend l'une de vos consoeurs, hein, qui dit la vérité, voilà, et qui décrit ce que vous expliquez, hein, année très particulière. Avec quels outils peut-on travailler aujourd'hui, sachant que de cette période, il va rester sans doute qu'on va peut-être vouloir moins d'assemblée générale physique, vous allez me donner votre sentiment, et peut-être utiliser un peu plus dans ce domaine-là aussi le digital. Il y a la question des majorités. Je disais tout à l'heure, pour simplifier, que depuis des années, les évolutions de la loi 65 allaient dans le sens de faciliter les travaux, notamment de rénovation énergétique. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il faut aller encore un petit peu plus loin sur ce sujet-là, le regard d'Estelle, est-ce que, avec tout particulièrement ceux qui sont les plus fragiles dans les copropriétés, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là ? Quid des modes de décision, le rôle de l'Assemblée générale, sans doute aussi le rôle majoré des préparations d'Assemblée générale, le rôle du Conseil syndical. Est-ce qu'il va falloir plus que jamais que les conseils syndicaux soient actifs, pilotés par les syndics ? Comment tu anticipes ce qui va se passer ?
Alors, c'est un peu le grand fantasme hein, de simplifier les décisions en Assemblée générale. Donc, c'est sûr qu'on se dit qu'en allégeant les Assemblées générales, on va peut-être fluidifier les décisions et permettre aussi des régularités de prise de décision.
Il y en a même qui pensent que le Conseil syndical devrait être décisionnaire dans ces matières-là. Oui, je l'ai entendu de la part de syndic, il n'y a pas très longtemps dans les couloirs d'un congrès.
Alors, bon, on peut avoir un avis là-dessus. Ça, c'est le modèle anglo-saxon où la copropriété, c'est de la cooptation entre pairs. Donc on se choisit, on décide de vivre ensemble et effectivement il y a un board exécutif qui va prendre des décisions et qui va les décliner tout au long de l'année et qui va rendre compte...
On n'est plus dans la démocratie.
Donc disons que je ne suis pas sûre en tout cas qu'aujourd'hui ce modèle-là il soit complètement adapté au modèle français où il n'y a pas de cooptation en copropriété et il ne faut pas non plus forcément complètement fantasmer ces modèles-là qui sont intéressants mais qui sont intéressants quand on est dans une certaine élite, un certain entre-soi qui fonctionne bien. Mais qui ne peut plus fonctionner très rapidement quand on n'est plus dans cet entre-soi et quand on est dans cette mixité, cette diversité de fonctionnement où on doit forcément inciter chacun à s'intéresser à ce qui se passe dans la copropriété. Nous, notre avis, c'est que quand on est propriétaire d'un bien, il ne faut pas dénaturer la valeur de la propriété. Quand on est propriétaire d'un bien, prendre une décision une fois dans l'année en présentiel, en assemblée générale, ça ne devrait pas être quelque chose d'excessivement aberrant et de compliqué à organiser et de se mobiliser, soit pour participer à ce temps ou éventuellement, si on ne peut pas y participer, donner mandat pour pouvoir être représenté le moment venu. Donc, dénaturer ce que représente une assemblée générale en présentiel, ce n'est pas forcément souhaitable. Et une autre analyse qu'on a pu faire avec beaucoup d'acteurs qui ont travaillé sur la prise de décision de gros projets en copropriété, c'est qu'en fait, pour que ces projets fonctionnent, pour qu'ils soient ensuite financés, parce qu'il ne suffit pas de prendre la décision, c'est évidemment forcément la première étape qu'on attend tous, mais après, derrière, il faut que l'argent rentre. Souvent, on est sur des plans de financement qui peuvent durer plusieurs mois, on est sur des échelonnements de financement sur plusieurs mois. Donc, il faut que chacun ait conscience de ce qui est voté à un moment donné. Et pour ça, il faut que la décision soit autant que possible la plus collective possible. Donc il ne faut pas non plus trop abaisser les seuils de majorité pour éviter que les gens se désinvestissent et que les majorités passent trop facilement au risque de ne plus avoir à devoir justement organiser cette décision collective et à faire venir les gens et à les faire voter. Par contre, il faut trouver le juste milieu, évidemment, puisque quand on est dans des situations bloquantes et qu'on n'arrive pas à prendre de décisions d'année en année alors qu'on est sur des décisions d'entretien courant, ou vraiment de gestion un peu normale dans un immeuble, pour un syndic, ça devient impossible à gérer.
José, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les copropriétaires bailleurs, qui n'étaient pas les plus impliqués dans la vie de la copropriété, hein, qui contribuaient largement à l'absentéisme, bon, qui même parfois ne donnaient pas pouvoir à qui que ce soit, bon, est-ce qu'on peut s'attendre, on rappelait tout à l'heure, ce qui pèse sur eux en tant que bailleurs, interdiction de louer si on ne remet pas à niveau le logement, est-ce qu'ils ne vont pas être les plus allants, les plus actifs désormais dans les copropriétés de nos villes ?
Alors, on est dans le risque première dame qui est intervenue tout à l'heure, du bailleur qui se pose la problématique de la conservation ou pas de son bien. Donc évidemment, il va y avoir un changement de comportement, mais... Et justement, pour boucler sur cette logique d'Assemblée générale et de majorité, je pense que ce serait dommage de passer à côté d'un moment important, et je dis des deux ou trois prochaines années, un moment important de ce collectif, de se poser ces problématiques. C'est vrai que le syndic doit avoir ce rôle d'impulser, de se mobiliser sur le bâti, sa situation, son évolution. Mais ce débat ne doit pas rester qu'un débat de la presse, de la communication. C'est le débat des habitants. Madame Dubrac évoquait les locataires. C'est le débat des habitants, c'est-à-dire le confort dans lequel on est, les copropriétaires, qu'ils soient bailleurs ou occupants. C'est un débat dans lequel, aujourd'hui, on doit se verser. C'est compliqué, donc ça mérite qu'on en parle. c'est difficile à financer, donc ça mérite qu'on ait des professionnels qui nous accompagnent. C'est un sujet qui mérite un présentiel, voire une visio pour ceux qui sont des bailleurs et qui ne peuvent pas faire 600 km pour venir. Enfin, aujourd'hui, la loi met à disposition pratiquement tous les outils pour que les copropriétaires participent. On a œuvré et on a insisté pour qu'on ait trois mobilisations qui aillent de concert. Celle du syndic qui doit se mobiliser dans ce moment. Celle du copropriétaire, qui doit se mobiliser. Et celle de la collectivité qui doit veiller à ce que cette mobilisation se produise. On ne doit pas être l'un ou l'autre. Il y a une conjonction nécessaire de cette mobilisation sur ces décisions. Et les majorités, bien sûr que ces passerelles sont une complication. Parce que si on n'a pas de quorum, si on n'a pas cette mobilisation, eh bien on tombe dans un vide. Elle était d'abord à l'article 24, les travaux de rénovation énergétique. Elle est à l'article 25 avec une passerelle, pour être technique, mais sans assemblée complémentaire. Donc si on n'a pas de quorum, on est dans un petit vide. C'est vrai que dans ce moment de confinement, ces vides se sont produits. Donc ces problèmes de majorité, comme le dit Estelle, sont derrière la mobilisation nécessaire et le débat sociétal dans lequel on est.
Alors, Daniel, un mot, et, parce que de toute façon, je comptais revenir vers toi après le micro-trottoir qui va
non,
suivre.
Non, mais le mot, il y a aussi le formalisme des décisions, c'est-à-dire on vote les travaux, il faut une mise en concurrence, il faut trois devis pour faire, la faire court. Après, c'est le financement, c'est un deuxième point, etc., etc. Nous, on a proposé, dans le cadre de notre manifeste UNIS, on a proposé le contrat global de rénovation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des groupements, hein, c'est à la fois l'AMO, l'architecte s'il est nécessaire, le syndic, le financeur, l'accompagnateur. Globalement, quitte à faire plusieurs mises en concurrence de plusieurs groupements, mais au moins qu'on fasse des décisions globales. Sur la majorité, on y a réfléchi, on préfère revenir à l'article 24, quitte à mobiliser un peu avant, d'accord, en réunion clair. Informelle. Par contre, sur le vote par correspondance exclusivement pour l'Assemblée générale, ça, on a bien demandé qu'il n'y ait pas de nouvelles dérogations sur ce sujet.
Alors, on va revenir à un sujet qu'on a déjà évoqué, chacun d'entre vous l'a fait, c'est rénovation ambitieuse globale versus rénovation par geste partiel. On va creuser cette question-là parce qu'elle peut constituer évidemment un obstacle, s'il y a une crainte de devoir trop faire, un obstacle à la décision collective. Et on va dans la rue faire s'exprimer un professionnel sur ce sujet.
Arrivez-vous à faire voter des travaux des rénovations globales ?
Il nous faut des partenaires qui gèrent pour nous toute la partie en amont du vote des travaux. Une fois que tout est géré avec le montant des travaux, les éventuelles aides qu'on peut avoir, le reste à charge, une fois qu'on a le global, ça nous permet de pouvoir présenter en AG. Et là, en général, c'est bien construit, ça passe. Voilà. Mais sans aide et sans des bons partenaires, si on n'en arrive pas là, on n'y arrive pas.
Alors bon, je disais dans la rue, c'est pas tout à fait dans la rue, c'est dans un congrès d'une grande organisation professionnelle qu'on est allé faire s'exprimer cette syndic de copropriété. C'est mieux que dans la rue. Ce balancement, tout à l'heure, la phrase le mieux est l'ami du bien, hein, tiendra. Elle est très concrète, elle vient assez naturellement dans la bouche d'un syndic de copropriété, c'est ce qu'on vient d'entendre. Ton regard là-dessus, rapporté aussi aux aides existantes, puisque MaPrimeRénov' aujourd'hui, ça n'est pas nécessairement l'incitation à faire une rénovation globale. On peut très bien, si on fait un geste, être attributaire de MaPrimeRénov'. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? Système des aides dans le réalisme, conduire petit à petit, évidemment, à traiter globalement le mal, mais peut-être façon échelonnée, ton regard ?
Alors d'abord, en copropriété, sur MaPrimeRénov' copropriété, c'est vraiment la rénovation performante qui est poussée. Donc quelque part, dans les professionnels de la filière, on n'a plus vraiment le choix, puisqu'il y a MaPrimeRénov' individuelle pour des travaux individuels, mais pour les travaux collectifs, c'est MaPrimeRénov' copropriété, donc c'est 35%. Et donc, effectivement, le mieux est l'ennemi du bien. On a fait beaucoup de rénovations par geste avant et maintenant, il se trouve que c'est pas suffisant, qu'il faut aller plus loin et que c'est pas assez rapide. Maintenant, évidemment, il y a tous les obstacles qu'on a donnés. Il y a la difficulté de prendre des décisions, il y a la sensibilisation qu'il faut faire, il y a le financement, notamment pour les très modestes et modestes, qui est un petit peu pris en compte, on l'a pas dit, donc je le dis ici, pour les très modestes et modestes, puisqu'ils ont aussi 1500 euros et 750 euros d'aide complémentaire dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété.
Donc ce que j'appelle la suppression, ça existe avec MaPrimeRénov' aujourd'hui.
Voilà. Sur des quotes-parts à plus de 10 000 euros En moyenne, on est loin des effets de solvabilisation attendus.
Bon, une petite nuance sur l'enthousiasme. Mais enfin, bon, ça existe.
Ça existe. Et on attend
ça existe,
que
donc
l'État...
Quelque chose existe.
Mais c'est important
quelque
de chose dire. En tout cas, le coin est enfoncé. On peut imaginer améliorer ce système, il existe.
Et l'autre point que vous disiez, M. Dejean, c'était de pérenniser effectivement ces aides, puisqu'aujourd'hui, on a une visibilité qui n'est pas forcément suffisante, qui peut être suffisante pour dire à une copropriété « Dépêchez-vous », si elle est déjà un petit peu engagée, s'il y a déjà un conseil syndical qui est mobilisé, mais pas du tout suffisant pour la plupart des copropriétés qui aujourd'hui n'ont pas du tout réfléchi à ces problématiques-là. Il faut le temps de sensibiliser à la fois le syndic, que le syndic sensibilise la copropriété en commençant par le conseil syndical. Et donc en ayant 2-3 ans de visibilité sur ces aides et des montants qui aujourd'hui ne sont pas suffisants, on l'a vu au début avec le rapport Seychelles, on n'a pas vraiment la possibilité, en tout cas, de massifier cette rénovation énergétique.
D'accord, c'est clair. Alors, on va, dans une dernière séquence, encore affiner cette appréciation sur l'accompagnement technique et financier, l'ingénierie financière, sans doute par le syndic de copropriété ou par d'autres acteurs. Et on va, bien sûr, parler aussi de nature de travaux. Alors, regardons un sondage, une partie du sondage réalisé par Elio, qui va nous révéler de manière fine les projets de rénovation énergétique des copropriétés. Quel type de travaux comptez-vous réaliser ? Voilà. Alors, on voit que ça rejoint des propos que vous avez tenus, José, encore tout à l'heure. À 48%, donc presque la moitié des copropriétaires, parlent d'une isolation des murs par l'extérieur, qui semble être projetée dans leur copropriété. On parle ensuite de l'isolation de la couverture, de la toiture, pour un tiers d'entre eux. Changement de chaudière, un cinquième. Rénovation globale, 19%. On est loin du compte, il y a encore du travail à faire, de conviction, mais sûrement aussi d'amélioration des moyens. La ventilation vient ensuite, et puis bon, petit à petit, on décroît dans l'importance des travaux votés ou décidés. Isolation des planchers bas, isolation des points singuliers, isolation des combles, changement de LED, calorifugage, voilà, c'est ce qui vient ensuite en queue de peloton. On a aussi regardé ce qu'il en était en termes de quantum, de budget. Et on a demandé quel est le budget que ces copropriétaires interrogés étaient prêts à allouer aux travaux de rénovation énergétique. Alors dans les 5 années qui viennent, on rappellera que dans la loi du 22 août 2021, on a ce fameux plan pluriannuel de travaux qui a été soufflé notamment par Procivis Lab. Il est décennal, mais probablement, Daniel va donner son avis, avec des visées intermédiaires, parce qu'on ne va pas faire comme ça un plan... alors, est-ce qu'il va y avoir des plans triennaux, un plan quinquennal? Là, on s'est mis à 5 ans pour interroger de manière peut-être plus réaliste les copropriétaires qui se projettent. Et on regarde, on s'aperçoit que pour un quart d'entre eux, allez, je pars du bas cette fois-ci, ce sont des budgets inférieurs à 1 000 euros. Que les copropriétaires seraient prêts à exposer. On parle évidemment pour chacun d'entre eux, on en revient à l'enveloppe et aux simulations du rapport Seychelles. 43% d'entre eux, c'est le maximum, on est entre 1 000 euros et 5 000 euros. 19% d'entre eux, entre 5 000 euros et 10 000 euros. Et puis, pour un peu moins d'un copropriétaire sur 6, on est prêt à aller au-delà de 10 000 euros, sans limite, en tout cas exprimée dans le sondage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que majoritairement, les copropriétaires ne sont pas prêts à exposer. Alors, il faut préciser, est-ce que dans la tête des répondants, c'est le reste à charge? Est-ce que c'est la facture, leur quote-part, qui pourra être évidemment réduite par des aides? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement un enjeu aujourd'hui de booster les aides ou de booster la conviction des syndics. José, ta réaction à ces deux types de réponses sur deux sujets corollaires?
On a fait un mini commentaire avec Estelle,
un aparté,
instantanément.
On l'a pas entendu.
Et qui est, voilà. Et qui est qu'effectivement 68%, 70%, sont prêts à faire l'entretien courant. 5 000 euros, c'est grosso modo l'entretien courant.
D'où très intéressant.
D'où le fait que... Mais c'est déjà très bien, parce qu'ils sont prêts à le faire. Le même sondage, il y a quelques années, n'aurait pas eu ce même retour, puisque l'entretien courant était souvent refusé.
et qu'on a pris du retard sur l'entretien courant.
Bien sûr, parce que ce que disait Estelle tout à l'heure, c'est le fait qu'on embarque toute une série de choses et pas seulement de la rénovation. Là, on dit qu'on est prêt à faire des travaux à hauteur de 5 000 euros, sous-entendu l'entretien courant d'une copropriété. D'où le fait qu'il faut vraiment aider ces gens-là à faire peut-être le complément, peut-être qu'ils sont prêts à faire 6 000 ou 7 000, hein, bien sûr. On a toujours, on dit toujours un peu. Mais avec une mobilisation d'aide qui permette de passer ce cap. Et de passer ce cap, vous voyez bien que s'ils ont mis à 5 000 et qu'ils vont à 6 000, ils feront un effort. Mais les mener à... Parce qu'ils n'ont pas atteint 35%, comme le disait Estelle, dans un certain nombre de cas, ça ne pourra pas être atteint. Eh bien, ça veut dire refuser les travaux. Donc, en fait, on est en train de faire des clivages, des exclusions, des distorsions, à la fois en fonction de l'étiquette, en fonction de la typologie, en fonction de l'endroit, en fonction de la valeur du bien, en fonction des collectifs qu'il y a à l'intérieur. Et si on force, encore une fois, eh bien, on va se retrouver dans des situations à gérer des situations difficiles, à avoir des impayés, à avoir des embarras de relations entre les copropriétaires eux-mêmes, puis ensuite avec le syndic, et puis à la fin. Donc, ce que l'on voit, c'est quand même une marche. On commence à marcher. c'est génial, parce que ça veut dire que la majorité des copropriétaires, plus de 70%, sont prêts à entretenir leurs biens. Génial.
Très bien, mais il faut voir effectivement le verre à moitié plein. Estelle, on a parlé des aides publiques, avec toujours d'ailleurs ce sentiment que nous avons que ça n'est pas notre argent. Bon, on rappellera que tout ça, c'est l'impôt sur le revenu qui le permet, et qu'il y a donc des limites, et vous l'avez dit tous, et par conviction, et parce qu'il ne peut pas naître autrement, de toute façon, il va falloir mettre la main à la poche. On n'a pas parlé des banques privées et de l'offre bancaire que chacun va solliciter lorsqu'il devra la rembourser lui-même, lorsqu'il n'a pas la trésorerie, lorsqu'il n'a pas les moyens, mais qu'il faut effectivement payer des travaux importants. Ton regard sur le rôle des banques, le rôle qu'elles jouent, qu'elles ne jouent pas aujourd'hui, moi je n'ai pas l'impression qu'il y ait un catalogue d'offres privées pour les copropriétés très fourni.
Alors, il y a quand même quelques offres, mais effectivement, ce n'est pas très fourni, c'est assez restreint. Aujourd'hui, effectivement, oui, on manque de capacité à préfinancer les subventions publiques, les aides qui sont versées in fine. On manque aussi d'outils pour effectivement financer le reste à charge. Alors, on peut être dans des outils différents.
C'est prêt à la consommation, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ?
Un prêt individuel, oui. Non, ou ça peut être un prêt collectif à adhésion individuelle.
D'accord.
Donc c'est proposé par la copropriété. La copropriété D'accord. le met en place avec le package travaux, en fait. Il y a des travaux, il y a des outils de financement qu'on va construire avec. Et effectivement, aujourd'hui, les AMO sont de plus en plus structurés pour apporter cette ingénierie financière. Donc, non seulement servir un peu d'expert en dialogue instruction-aide, puisqu'on parlait dans le premier micro-trottoir pour reboucler un petit peu sur la spécificité des aides et les éléments techniques. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, il y a des ingénieurs financiers qui accompagnent les copropriétaires, les particuliers dans la pré-instruction, la préparation de leur dossier pour être sûr que tout soit carré par rapport aux réglementations des organismes financeurs qui sont effectivement très spécifiques et très contraints. Et qui ont développé aussi cette capacité à aller chercher les outils de financement pour soit préfinancer les aides, soit effectivement financer les restes à charge. Donc on peut aller évidemment sur des outils de prêt collectif à adhésion individuelle qui peuvent être proposés en assemblée générale par la copropriété et être simplifiés dans l'adhésion et dans la contractualisation. Et après, on a le nouveau prêt. J'imagine que c'était une des orientations de la question.
Alors voilà, proposition d'ailleurs du rapport Sichel aussi, mais qui lui-même exhumait un concept ancien. Le prêt avance, rénovation, mutation, enfin,
oui, le prêt avance mutation qui est devenu le prêt avance rénovation, qui est en fait l'idée de se dire, en fait, mon bien a de la valeur, je vais être amené à le vendre. Est-ce que finalement, je ne pourrais pas hypothéquer, entre guillemets, sur la valeur du bien pour financer les travaux et rembourser ce prêt-là au moment de la mutation.
Donc, on pense à ceux qui ont le moins de moyens, on pense aussi peut-être aux plus âgés.
Hein, derrière ce concept. On pense aux plus âgés, on pense évidemment aux zones tendues,
aux zones tendues.
Où la valeur du logement est largement supérieure à la valeur des travaux et où on sait qu'on ne peut pas forcément, ce serait aberrant de devoir vendre un logement pour financer une quote-part de travaux, alors même que le logement a une valeur importante, et de pouvoir effectivement maintenir des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de financer ces travaux-là, mais qui ont un appartement qui vaut largement l'investissement.
C'est très clair. Daniel, sur les banques et le fait qu'elles soient ou pas au rendez-vous de l'histoire de la copropriété et de sa rénovation environnementale, quel est ton avis? Tous les grands syndicats ont des liens privilégiés avec les grandes enseignes bancaires. Moi, je n'ai pas l'impression qu'ils se précipitent sur ce marché. Il y a eu deux enseignes qui s'occupaient du financement des copropriétés. On ne va pas les citer, mais on les a tous en tête. Deux sur 20 grandes banques nationales. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Il faut que les banques se mettent autour de la table. Je pense que la ministre du Logement y est aussi attachée. Sur le préfinancement aussi, il y a quelques opérateurs, mais il n'y en a pas tant que ça. On a de la chance en Ile-de-France, mais il n'y en a pas partout. Il faut aussi peut-être regarder la réglementation bancaire. Il n'y a que les banquiers qui peuvent être autour de la table pour ça.
Bien sûr.
Pour regarder comment arranger et pouvoir trouver un emprunt commun et collectif, pas avec une adhésion individuelle comme ça existe. Je sais qu'il y a la question de la caution, enfin la solidarité de la collectivité qui est un vrai sujet. Il faut aussi qu'on dise un copropriétaire est capable d'acheter quelque chose de façon individuelle, par exemple une voiture à 20 000 euros, mais ça sera plus compliqué pour lui de mettre 20 000 euros dans des travaux de rénovation énergétique de son bien en habitat collectif. Et donc ça, il faut absolument faire passer ce message comme quoi il est copropriétaire d'un lot privé, mais il est aussi copropriétaire de quotes-parts de parties communes. Et donc il a intérêt à bien les valoriser, y compris les équipements collectifs. En tout cas, il y a encore du travail à faire. Notre syndicat UNIS est largement engagé pour que tout ça devienne, au-delà d'une contrainte, une réalité.
Un petit mot sur ce sujet. Non, on n'a pas le temps, José, mais on va revenir. Tu t'en moques, on est le temps ou pas,
vas-y. Que Procivis participe à ces préfinancements, ce qu'on a évoqué.
Les
caisses d'avance.
Voilà, donc un acteur sort du bois.
Voilà. Ces missions sociales sont une des caractéristiques de Procivis.
De t'imposer pour.
Je ne voulais pas que l'on ne cite pas cette mission sociale particulièrement importante.
Thibault, un concept qui est sorti de travaux de France Stratégie, ils ne s'intéressent pas tous les jours à la copropriété, alors quand ils le font, il faut le retenir, qui parle de l'idée d'un opérateur ensemblier qui serait agréé par l'État, qui serait une solution de tiers financement. On a évoqué ces besoins d'avance, de tiers financement. Qu'est-ce qu'il faut en penser avant qu'on ne voit une vidéo qui va nous éclairer sur le sujet?
Alors nous, on croit beaucoup à ce modèle et on travaille dessus justement avec France Stratégie. Et Madame Dubrac l'a un petit peu évoqué, même presque complètement. C'est la possibilité de voter en une seule fois l'ensemble des acteurs qui vont intervenir, notamment pour accélérer la prise de décision, pour avoir une meilleure lisibilité aussi. Et dans le modèle de France Stratégie notamment, il y a un financement qui est fait par cet opérateur ensemblier et qui va pouvoir se rémunérer sur les gains énergétiques qui vont être perçus par la copropriété. Donc l'opérateur ensemblier va en récupérer une partie.
Sous forme de loyer ou de redevance.
Voilà. Ça pose plein de questions, évidemment, mais en tout cas, le modèle est en train d'être
réfléchi. Je te propose qu'une vidéo que vous avez contribué à réaliser nous éclaire peut-être mieux encore que vos propos.
Le tiers financement. Lorsqu'un propriétaire ou un syndicat de copropriété envisage de faire des travaux de rénovation globale, ils peuvent contacter un opérateur ensemblier. Cet opérateur public ou privé agréé par l'État va établir l'audit énergétique et les préconisations de travaux à réaliser. L'opérateur peut réaliser lui-même ou faire réaliser les travaux par un sous-traitant. Il va également proposer un contrat de préfinancement de la totalité des travaux qui permettront de diminuer la consommation d'énergie. Une fois les travaux terminés, l'opérateur perçoit les aides financières liées à la rénovation énergétique du logement. Selon les modalités du contrat de préfinancement, l'opérateur perçoit de la part du bénéficiaire jusqu'à 75% des gains réalisés sur la facture d'énergie, et ce, jusqu'au remboursement complet des travaux. Le ménage conservera 25% de ses gains. Toutefois, en cas de défaillance et d'absence de rentabilité de l'opération, selon des conditions établies à l'avance, l'opérateur pourra recourir à un fonds financier de garantie publique.
Alors, intéressant, mais Estelle, tu vas réagir pour nous dire si toi, tu trouves ça intéressant. On parlait tout spécialement des copropriétaires ayant les plus faibles revenus. On parle aussi d'atteindre des performances, hein, mesurer si les dépenses qu'on va faire sont bel et bien des investissements et si on a atteint la performance. C'est intéressant aussi de parler de contrat de performance énergétique. Ton regard ?
Ben oui, le contrat de performance énergétique, aujourd'hui, il existe déjà. Il est déjà mis en œuvre, hein, de façon même plutôt intéressante dans certaines situations. C'est un outil parmi d'autres. Alors, il ne faut pas se leurrer. Ça répondra à certaines situations, à certains besoins, évidemment, notamment aux grosses copropriétés, celles qui peuvent aller sur des travaux ambitieux, sur des travaux performants, qui, effectivement, nécessitent un gros investissement, mais qui peuvent être très rentables en termes de performance, de gains énergétiques et qui peuvent permettre d'équilibrer ce mécanisme et ce phénomène de retour sur investissement et d'économie d'énergie qui vont venir permettre de compenser l'effort financier nécessaire en investissement. Donc c'est un outil qui est très intéressant pour certaines situations. Après, c'est là où nous on considère que la palette, elle ne doit pas s'arrêter sur des outils comme ça très intéressants ponctuellement, puisque ça ne répondra pas à tous les besoins et qu'il faut qu'on arrive à décliner une palette d'outils qui vont être capables vraiment de répondre à toutes les situations si on veut vraiment aujourd'hui massifier, puisqu'on va peut-être juste rappeler que la moyenne des copropriétés en France, c'est une vingtaine de lots. Donc effectivement, on parle des zones urbaines où il y a des grosses copropriétés, des ensembles immobiliers très importants qui peuvent être embarqués très rapidement et on a un volume de logements qui sont embarqués dans cette rénovation aujourd'hui très important. Mais on va aussi au-devant de ce qui va rester à mener dans les années à venir. Et là, il faudra aussi être capable de proposer des outils pour les plus petites copropriétés, pour les centres anciens, avec du matériau biosourcé à aller chercher qui est plus onéreux à l'investissement, avec une économie d'échelle moins importante, avec pas forcément de chauffage collectif, donc aussi des économies de charges qui sont moins mesurables au niveau du collectif. Donc il faudra aussi décliner des outils et des systèmes pour toutes ces copropriétés-là. Mais on y arrivera aussi parce qu'on embarque aujourd'hui les grosses copropriétés avec des outils très puissants comme cela.
Daniel, et ce sera le mot de la fin parce qu'on est au bout de cette heure et demie qu'on a passée ensemble. Ta réaction à ce concept de guichet unique, en quoi est-il précieux ou pas pour les syndics de copropriété? Et aussi, parlons de territoire. Hein, est-ce qu'il ne faut pas territorialiser ces aides d'accompagnement et des professionnels et des copropriétaires au bout de la chaîne?
La notion de guichet, elle a été mise en place aussi dans la loi Climat et Résilience, donc oui. C'est une bonne chose. Ça centralise un peu les informations déjà. Et puis nous, le syndic de copropriété, on va être agent, on va être relais, on va être agent de lien entre les uns et les autres pour trouver la bonne solution au bon moment. Donc c'est une très bonne chose. Le fait de le délocaliser au niveau régional ou local, ou par exemple les ALEC, on parlait tout à l'heure d'aide dans différents endroits, c'est plutôt une bonne chose parce que forcément il y a des spécificités sur les territoires. Il peut y avoir aussi des compléments d'aide qui sont utiles et donc il faut se rapprocher des services de l'habitat, du réseau fer, de l'ADEME, de l'ANA, et il y a forcément un référent en local à travers des maisons de l'habitat ou autres au niveau local. Donc il faut vraiment s'approcher des professionnels mais aussi s'approcher des gens qui ont la connaissance, l'information, et puis ensuite mettre ça en musique dans le cadre d'une assemblée générale qui va enfin décider les travaux. N'oublions pas le DPO collectif qui va venir, le plan pluriannuel de travaux, tout ça ce sont des outils qui vont permettre quand même de planifier dans le temps, à part que le calendrier sur les classes F et G est quand même un calendrier irréaliste au 1er janvier 2023.
Tiens, un petit mot et devant Tanguy qui s'intéresse à l'ingénierie financière sur l'épargne forcée, je l'appelle ainsi, hein, avec le mode de calcul aussi qui est modifié. Hein, c'est désormais sur la base des travaux programmés qu'on va appeler cette épargne auprès des copropriétaires. Il existait déjà depuis 2014 hein, un système d'épargne obligatoire. Ton avis là-dessus ?
On est beaucoup pour la prévention au départ, dans la mesure où c'est planifié, on sait à quoi ça va servir, dans quel délai, et que c'est bien dans la conservation.
Vous allez y arriver parce que vous allez appeler des charges majorées hein, de ce fait.
Oui, bien sûr, le syndic il est quérable, alors évidemment on dit on paye le syndic alors qu'on paye en fait les charges et que c'est 4% de ce qu'on appelle.
Voilà,
mais bon,
continuer à expliquer
peu importe.
Ça.
Voilà, ben, oui, mais c'est la méthode Coué, on y arrivera.
Bon. Moi, je voudrais vous remercier tous les trois. José de Juan a dû partir il y a deux minutes. Mes remerciements vont vers lui aussi, en son absence. Merci de votre franchise, de votre clarté. Je trouve qu'on a mis en avant des problèmes, mais beaucoup de solutions. Hein, et sur la base de ce que pensent les copropriétaires, les professionnels sur le terrain. On n'a pas négligé la réalité, elle nous a servi de tremplin pour ce débat. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui l'ont suivi. J'espère que vous avez été satisfaits de cette heure et demie. Au revoir.